Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Radio Canu 102.2, on vous le disait à l'instant, bien comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, c'est Idées Noires. Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et on est ensemble pour une heure, jusqu'à 21h, comme toutes les semaines. Une heure d'actualité sociale et politique, revue par les militants et militantes de l'UCL. Bien sûr, encore une émission bien chargée, pas mal de choses à évoquer, bien en grande partie la poursuite de la mobilisation sur les retraites, le retour sur les 1er mai, mais aussi d'autres mobilisations et puis les sinistres violences policières qui vont avec. Mais comme traditionnellement, on commence, Rémi, notre émission par quelques annonces et rendez-vous.
Eh oui, bonsoir. On commence par un premier événement festif, c'est à l'Illégalité à Villeurbanne, vendredi 5 mai contre la réforme des retraites, viens faire la fête. On vous y attend nombreux et nombreux à partir de 20h pour continuer à soutenir le mouvement social contre la réforme des retraites, cette fois-ci en renflouant la cagnotte de la caisse de grève féministe du Rhône. Au programme, un bar et des snacks et desserts vegan et plusieurs DJ sets de folie, nous promettons. Il y en aura pour tous les goûts, du rap de meuf, de la disco, boogie woogie, du reggaeton, de l'électro, de la techno. La soirée et le repas sont à prix libre. On conseille tout de même d'arriver tôt puisque la dernière entrée est à 22h. Le slogan est facile à retenir, contre la réforme des retraites, viens faire la fête. Et un autre événement malheureusement moins festif, c'est ce dimanche à 15h, place Bellecour, un rassemblement contre l'opération raciste, colonialiste et fasciste de l'État français à Mayotte, l'opération du nom de Wambushu, qui vise ni plus ni moins qu'une épuration de Mayotte de toute présence comorienne. On a vu des images terribles, hein, de populations déplacées et enfermées, allant jusqu'à des tirs à balles réelles durant des rassemblements sur l'île. Rendez-vous donc ce dimanche à 15h, place Bellecour, pour dire non à l'opération Wambushu.
Et puis tu as commencé ces rendez-vous en parlant de la caisse de grève féministe. On va les terminer en saluant la sortie du numéro 80 de la revue Débat Féministe. Alors cette petite revue Débat Féministe qui existe, comme vous venez de le comprendre, depuis maintenant un bon moment, depuis 80 numéros, c'est tout simplement le bulletin du planning familial 69, dont le numéro 1 avait vu le jour en mai 1999, sous la forme d'un petit bulletin de 12 pages, et puis le précédent qui datait de février 2023, qui était le numéro 79, lui avait atteint 32 pages déjà, comme celui qu'on a actuellement entre les mains. Mais si on vous en parle cette fois-ci, c'est qu'après 24 années d'existence, et ben Débat Féministe, ce bulletin du planning familial 69, a fait peau neuve, puisque celui-ci a quitté l'impression noir et blanc pour passer à une impression couleur, sur un papier de meilleure qualité, ce qui lui donne tout de suite un caractère plus attrayant, plus moderne, et celui d'un petit magazine, ou en tout cas d'une petite brochure. Une petite brochure format A5, ou sur lequel le planning familial fait le point sur ses débats, ses luttes contre la réforme des retraites, les mobilisations multiples qui sont engagées, ou dans lequel on trouve des articles de fond comme « Combien coûtent nos vies dans le monde de médicaments ?» fait le tour des nouvelles revues et des nouveaux livres qui sont rentrés au centre de documentation du planning familial et annonce un peu tous les rendez-vous qui concernent les mobilisations féministes et notamment la prochaine assemblée générale du mouvement français pour le planning familial du Rhône, prochaine assemblée générale qui est ouverte bien sûr aux adhérents ou non, c'est-à-dire que les adhérents auront des temps pour décider de la vie du planning familial pour l'année future, mais les non-adhérents et ceux qui souhaiteraient rejoindre le planning familial, ils sont aussi les bienvenus puisqu'il y a un moment convivial qui est prévu pour accueillir tout le monde. Ça sera le 20 juin prochain, en soirée au CCVA, le Centre culturel et de la vie associatif de Villeurbanne, mardi 20 juin prochain. Prenez vos rendez-vous si vous êtes adhérent, sympathisant ou si vous souhaitez soutenir le planning familial pour ce moment convivial qui est donc prévu. Voilà donc avec quoi on voulait terminer un petit peu nos rendez-vous et nos petits clins d'œil avant de passer à rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est bien évidemment le retour sur cette journée du 1er mai qui s'inscrivait dans la continuité des mobilisations sur la lutte contre la réforme des retraites. Le gouvernement quelque part espérait un baroud d'honneur à l'occasion de ce 1er mai. Et ben ça n'a pas été le cas, bien au contraire, puisque ce 1er mai a raconté une toute autre histoire pour en fait ce 13e rendez-vous de mobilisation contre la réforme de retraite. Et ben à l'occasion de cette journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleuses, c'est selon le ministère 800 000 personnes à 2 millions selon les syndicats qui ont défilé dans tout le pays, ce qui est historique, hein, ce qui est à la fois historique, inédit ou surprenant pour certains, le fait que ce 1er de 2023 restera dans les annales par le nombre de personnes qu'il a rassemblées. On vous le dit, hein, le ministre de l'Intérieur compte 782 000 manifestants exactement. La CGT, elle annonce 2 300 000. En tout cas, il y a eu des défilés dans plus de 300 communes. Et ce 1er mai 2023, il se place tout simplement au second rang des 1er mai les plus massifs de ces 30 dernières années. Il arrive juste derrière le 1er mai 2002, rappelez-vous, dans un contexte politique bien particulier, puisque c'était celui de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle qui avait vu arriver Jean-Marie Le Pen au second tour. Pour la première fois où on avait un Le Pen au second tour des élections présidentielles. Malheureusement, maintenant, depuis quelque temps, c'est presque devenu une habitude. Mais en tout cas, c'est le seul 1er mai au cours des 30 dernières années qui a rassemblé plus de monde. Arrive ensuite ce 1er mai-là, 2023, qui est par exemple bien au-dessus des derniers 1er mai unitaires, comme celui de 2009, qui avait rassemblé à peine 500 000 de personnes sur toute la France, dans le contexte pourtant de crise financière mondiale. Alors, une telle fréquentation, une telle mobilisation dans les rues à l'occasion de ce 1er mai, ça souligne encore une fois tout simplement la profondeur de l'opposition à la réforme des retraites dans la société française. Et de nouveau, on pourrait dire que la mobilisation, elle a été importante partout. Elle a été importante dans les villes moyennes, comme par exemple les 18 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Brest ou du Havre, selon la presse locale. C'est plus de 12 000 personnes à Saint-Nazaire, 8 000 à Pau, 5 000 à Saint-Brieuc et Châteauroux. Et puis, elle a été aussi toujours très forte dans les grandes villes, hein, où là, il y a des grands écarts entre les chefs de la police et ceux des syndicats. C'est le cas de Lyon, où l'intersyndicale annonce 45 000 manifestants, tandis que la police tente de minimiser les faits à 10 000 manifestants. Pour avoir été dans la rue, on a bien vu qu'on est largement plus proche des 45 manifestants. Et puis, dans d'autres grandes villes, il y a eu énormément de monde. Hein. C'était près de 80 000 personnes à Nantes, entre 14 000 et 25 000 à Clermont-Ferrand, alors là, c'est le grand écart, 13 500 et 100 000 à Toulouse, entre 15 000 et 38 000 à Grenoble, entre 16 000 et 40 000 à Caen, ou encore entre 8 000 et 18 000 à Montpellier, sans oublier bien évidemment Paris, où ce fut l'une des plus grandes manifestations depuis le début du mouvement, avec 112 000 personnes selon la préfecture et 500 000 selon les syndicats. Donc on voit bien que, quels que soient de toute façon les chiffres qu'on prenne, même si on coupe la poire en deux, quels que soient les chiffres qu'on retient, ce 1er mai 2023 vient très largement contredire la règle qui veut qu'une fois votée puis promulguée, ben, une loi ne suscite plus de contestation dans la rue. Au contraire, ce 1er mai se paye deux luxes. D'abord celui d'inverser la tendance des mobilisations contre cette réforme des retraites qui était plutôt en baisse sur les dernières journées et là qui provoque un véritable rebond et qui redémarre. Et puis montrer que malgré le fait que cette loi soit votée et promulguée, eh ben, les gens sont toujours mobilisés, que les gens sont toujours fortement dans la rue et lâchent pas l'affaire, et que ce 1er mai n'a pas été un baroud d'honneur comme beaucoup le disaient, mais que la lutte continue, et d'ailleurs l'intersyndicale dès le lendemain a annoncé un nouveau rendez-vous, puisque le prochain rendez-vous ça sera le 6 juin prochain. Alors c'est vrai qu'on peut tiquer et trouver cette date un peu tardive qui arrive quasiment que dans un mois, mais c'est important qu'il y ait des perspectives, parce que le 6 juin prochain, ça sera une nouvelle journée de grève interprofessionnelle, une nouvelle journée de manifestations partout en France. Mais on espère que d'ici là, et de nombreux syndicats le souhaitent, il va y avoir d'autres actions, des blocages, des rassemblements, des débats, beaucoup de choses qui vont être organisées pour continuer à faire vivre cette mobilisation, de cette mobilisation contre le mouvement des retraites. Parce qu'on le sait, que ces derniers mois, en fait, ils laissent clairement aucun doute. Hein. On sait qu'il n'y a rien à attendre, nous on le sait en tant que militants anarchistes, qu'il n'y a rien à attendre de nos institutions politiques et économiques, sinon on l'a vu, toujours davantage d'inégalités, d'exploitation et de répression, on va en parler aussi longuement dans cette émission, et qu'après plus de 3 mois de mobilisation contre cette réforme injuste et antisociale, et ben, plus déterminé que jamais, à l'image de ce qui s'est passé ce 1er mai, le mouvement social a su finalement se réinventer dans ses actions et on pourrait dire donner un nouveau souffle à la contestation. La bataille des retraites, on vous le dit, elle n'est pas terminée. C'est pas parce que la loi est votée que les choses ne pourront plus changer. On l'a suffisamment dit. Le CPE, contrat première embauche, qui avait été promulgué en 2006, a finalement été retiré face à l'ampleur de la contestation. Donc tout est permis une fois de plus. Et puis il y a déjà des petites victoires, hein, quoi qu'il advienne, face à la contestation d'ampleur. Il y a par exemple la mise en place du SNU obligatoire qui a été repoussée. Il y a la loi Darmanin sur l'immigration qui, elle aussi, devait passer au mois de mars, a été repoussée, la discussion à l'automne prochain. On voit bien que le gouvernement est fébrile, que le gouvernement il est décrédibilisé en France comme à l'étranger d'ailleurs, et que ce gouvernement fébrile, il témoigne en fait d'une crise du régime qui est sans précédent, puisque tout simplement les élus ils ont peur de nos casseroles, à l'image de Papendaï qui est venu lundi dernier à Lyon, ministre de l'éducation nationale, et qui a annoncé au dernier moment à la presse, c'est-à-dire à 11h du matin, qu'il se rendrait à 14h30 à l'INSPE, l'Institut National d'École pour la Formation des Professeurs, sur le boulevard de la Croix-Rousse, et qu'il y ferait un point presse. Et en fait il est venu qu'à 17h30. Une fois que tout le monde était parti, il a annulé au dernier moment sa rencontre avec les étudiants prévus, le point presse, devant le nombre de gens qui sont venus spontanément se rassembler, huer et taper des casseroles et même enfoncer les grilles de l'INSPE pour pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment et exprimer tout le mal qu'on pense de ce gouvernement antisocial. Tout ça, c'est des petites victoires. Tout ça, c'est des petites victoires qui peuvent en donner une grande à la fin, celle du retrait de cette loi injuste, injuste et antisociale. Et déjà, on peut dire que pendant cette mobilisation, on a renforcé notre camp, on a renforcé notre camp social, parce qu'on est plus nombreux et plus solidaires, que jusqu'à l'étranger, où on ne l'entendait plus, le mot d'ordre de départ de la retraite à 60 ans s'ébruite et se propage. Dans les cortèges, on n'hésite plus non pas simplement à redemander le retrait de ce projet, le maintien de la retraite à 62 ans, mais à réclamer le retour à la retraite à 60 ans. Et c'est pour ça qu'on doit continuer notre lutte, que notre colère, elle faiblit pas, et on doit rien lâcher, que Macron et son gouvernement, eux, ne lâcheront rien, ou ne lâcheront que si nous paralysons l'économie et cessons de remplir le porte-monnaie du patronat. Et c'est pour ça qu'il est important de s'organiser pour construire des actions massives dans tous les secteurs, pour essayer, partout où c'est possible, de réanimer des assemblées générales de grévistes sur nos lieux de travail et dans nos différents territoires, pour mettre en place des actions de blocage, pour mettre en action des actions qui pèsent sur l'économie, et puis pour mettre en déroute les projets gouvernementaux et permettre à tous les travailleurs et les travailleuses petit à petit de prendre conscience de notre force, parce qu'on sait que c'est bien les capitalistes qui ont besoin des travailleurs et des travailleuses, et c'est pas le contraire, que de notre côté, on le dit souvent, hein, il est important de reprendre le contrôle sur nos vies et sur notre travail, pour que finalement, ce travail qui est souvent source d'exploitation et de souffrance devienne enfin émancipateur et conciliable aussi avec les impératifs écologiques et utiles socialement. C'est pour ça que on doit porter, nous, en tant que militants communistes libertaires, partout où c'est possible, la critique du capitalisme d'État. On doit faire que la lutte doit s'orienter vers nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis, ce sont les fascistes aussi, qui ne doivent plus croire sur la répression sociale et les oppressions, et se présenter comme soi-disant une alternative. Parce que nous savons ce que nous voulons. Nous, militants révolutionnaires et anarchistes, nous savons que nous voulons une société autogestionnaire, dans laquelle les travailleurs et les travailleuses gèrent eux-mêmes leur travail, où la production est démocratiquement organisée et aussi répartie en fonction des besoins et dans le respect de l'écosystème, c'est-à-dire la construction d'une société où la démocratie, elle est directe et elle n'est pas représentative, parce que nous savons que dans quelles conditions nous voulons vivre et vieillir, dans quelles conditions nous voulons travailler, nous voulons apprendre, nous voulons aimer, nous voulons nous épanouir, hein, nous voulons et nous pouvons construire une société qui serait débarrassée du capitalisme, de l'État, du racisme et du patriarcat. Et c'est pour ça que nous, militants communistes libertaires de l'UCL, on dit qu'il faut rien lâcher, que l'unité de notre camp, c'est la meilleure des stratégies, et qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est loin d'être fini. Le 1er mai nous l'a montré, et ni les passages en force du gouvernement, ni la répression policière nous feront reculer. Alors bien sûr, on peut parfois être dubitatif, interrogé au circonspect face au degré de violence qui peut s'exprimer, comme ça a eu lieu ce lundi dans les rues de Lyon. Un degré de violence qui n'est en fait que l'expression d'une colère légitime, de la colère populaire. Si certains ont ouvertement des stratégies insurrectionnalistes pour radicaliser le mouvement ou pour s'affronter avec l'État, il faut bien reconnaître que ces stratégies, toutes critiquables qu'elles peuvent être parfois lorsqu'elles ne respectent pas la diversité des tactiques et entravent aussi l'action collective et sociale et syndicale, aujourd'hui cette violence elle est assumée par le mouvement social dans son ensemble, qu'elle ne s'oppose pas avec la stratégie d'ensemble de la mobilisation, qu'on a vu bien des actions ciblées contre les symboles du capitalisme être applaudies par les manifestants, qu'on a vu les services d'ordre syndicaux protéger les actions des groupes radicaux qui attaquaient les symboles du capitalisme. Et puis cette violence, elle n'est que, ce qu'il faut bien comprendre, l'expression d'une colère légitime face à la violence d'État, face à la violence gouvernementale, face à la violence politique et de classe de ceux qui sont au pouvoir et qui méprisent le monde du travail en voulant nous voler 2 ans supplémentaires de nos vies, en plus nos 2 meilleures années de retraite, parce qu'on sait que c'est les 2 premières années de retraite qui sont les meilleures, celles où on est encore dans une dynamique de faire des choses, d'être active, où on est le plus jeune, en meilleure santé. Et ben c'est ces années-là qu'on veut nous voler, et un gouvernement méprisant qui n'écoute même pas la voix de sa démocratie parlementaire sur laquelle il repose, un gouvernement méprisant qui nie la représentation syndicale et l'expression syndicale, et qui nie même la mobilisation sociale de masse qui s'exprime depuis plusieurs fois dans la rue, un gouvernement qui n'a qu'une violence, qui est celle de la démolition sociale. Et donc il ne faut pas s'étonner que à cette violence d'État, cette violence du pouvoir, ici et là répondent parfois une violence de certains groupes radicalisés qui s'attaquent aux symboles du capitalisme et qui légitimement se disent il ne reste plus que ça pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir peut-être porter atteinte au pouvoir. En tout cas, cette violence, elle a des conséquences, c'est celle de la répression policière, même si on est solidaire, même si on est organisé face à elle. Il y a des gens qui se font arrêter, il y a des gens qui sont blessés, on en reparlera au cours de cette émission, il y a des gens qui sont victimes d'arrestations arbitraires. Ça a notamment été le cas lundi à Lyon, puisqu'il y a eu une 40aine de personnes qui ont été arrêtées au cours de cette manifestation. notamment place Bellecour, à l'issue de celle-ci, lors d'une opération de récupération et de réappropriation collective et de gratuité dans les locaux du Monoprix de la place Bellecour, où 30 personnes ont été nassées à l'intérieur, ont été arrêtées, et pour la plupart ont été relâchées de leur garde à vue simplement hier au soir, et certains sont par contre passés même en comparution immédiate aujourd'hui, pour ceux dont la garde à vue avait été prolongée. On vous tiendra au courant des solidarités qui se mettront en place des conséquences de la répression pour toutes ces victimes de la répression du 1er mai. On va en parler un peu plus de façon un peu plus globale, au-delà de Lyon d'ailleurs, juste après cette première pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires. Idées Noires, c'est l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire, et comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, on est ensemble pour une heure d'actualité sociale et politique. Et ben, on parlait du 1er mai, on retrouve justement Damien Saez qui nous chante 1er mai sur cette émission Idées Noires.
J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer le sans-abri quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation, amis, le 1er mai, pour dessiner un horizon pour nos humanités. Toujours le cœur contre le front, ouais, lâche-moi ton briquet. Toujours le cœur contre le front, moi j'ai le poing levé. Sur les réseaux, la fachosphère vient toujours gangréner le cœur de mes humanitaires, envie de tout casser. Contre les barbares de la terre, amis, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès, contre les maquerelles du pognon, contre les croix gammées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, nos univers écartelés, entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers. Si c'est toujours toi populaire contre la société, nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, tes bonheurs bon marché, les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier, nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, amis, un 1er mai. S'il faut cramer la financière, ouais, lâche-moi ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon c'est la galère, ouais, pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un 1er mai. Ami, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier. Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts, avec le peuple enfant des plaines ou celui des quartiers, avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers, avec le peuple camarade qu'on vient le 1er mai. S'il faut monter la résistance contre les enculés, amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer. Des sourires des politicards, des sourires de banquiers. S'il faut garder le cœur anard, garder le poing serré. Un jour j'irai brûler la bourse, ouais, lâche-moi ton briquet. Avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée. Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer. Un peu commune, égalitaire, oui, fleur d'humanité. Pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet. Dans les yeux du peuple, là-bas, un rêve, une liberté. Dans les yeux du peuple, là-bas, un rêve, une liberté.
Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios. 1er mai, nous chantait Damien Saez. C'était d'actualité avec ce qu'on venait d'évoquer dans cette émission Idées Noires. L'émission de l'Union Communiste Libertaire, tous les mercredis soirs de 20h à 21h. On parlait de la répression policière à l'occasion de ce 1er mai à Lyon, des arrestations, de la quarantaine d'arrestations qu'il y a eu. Bien évidemment, c'est pas simplement à Lyon que les forces de l'ordre ont fait des ravages.
Eh oui, la répression, on l'a vu, elle est documentée, elle est condamnée par des instances internationales comme par des organismes indépendants. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, cette répression en France, elle bat son plein. Dans la panoplie des outils de répression, il y a les arrestations préventives. En mars dernier, par exemple, on l'avait rapidement évoqué dans cette émission, alors que des centaines de personnes avaient été arrêtées, seuls 9 avaient fait l'objet de poursuites. Pour les autres, il ne s'agissait donc que d'arrestations arbitraires, sans la moindre suite ni justification. Et cette privation de liberté, si à l'époque elle n'avait pas choqué grand monde, elle commence à attirer les regards. Dans son rapport rendu public aujourd'hui, Dominique Simoneau, qui porte le titre joliment euphémisé de contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, un organisme indépendant qui va voir en gros ce qui se passe dans les prisons ou en garde à vue, cet organisme pointe les interpellations violentes, des conditions d'hygiène indignes en garde à vue et des irrégularités après avoir contrôlé 9 commissariats les 24 et 25 mars dernier. Elle parle aussi d'une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives. En gros, on vous arrête pour rien, histoire de vous mettre un coup de pression. Dominique Simoneau parle elle-même d'intimidation, et ce, dans l'espoir qu'on ne vous y reprendra plus. C'est donc la semaine dernière que Madame Simoneau et ses équipes se sont rendues dans 9 commissariats parisiens pour contrôler la prise en charge des personnes interpellées. Résultat, des interpellations violentes, des fouilles systématiques en sous-vêtements, des conditions d'hygiène indignes, des espaces individuels insuffisants en cellules collectives ou encore même des irrégularités dans les fiches d'interpellation. Et surtout, 80% des personnes interpellées qui ont été relâchées sans aucune poursuite. Le rapport explique même que certaines personnes ont entendu des policiers décider au hasard, au terme de discussions triviales, je cite, des infractions à retenir contre elles, donc des fiches d'interpellation pré-remplies qui ont été distribuées directement aux agents. Des agents qu'on aurait même entendu dire « qu'est-ce qu'on lui met à celui-là » et qui seraient du coup vus incapables d'expliquer le contexte de la moindre arrestation. Elle en attribue en grande partie la responsabilité aux instructions données par la préfecture de police et le parquet de Paris, encourageant un recours massif aux interpellations à titre préventif. Le mot est lâché, interpellation préventive, c'est illégal, mais ça arrive quand même. La rapporteuse a envoyé un courrier à l'infâme Gérald Darmanin le 17 avril, et ce dernier, qui avait officiellement jusqu'à lundi pour répondre à ses observations, ne l'a fait qu'hier. Évidemment, de son côté, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Pour justifier ces interpellations injustifiées, il évoque la difficulté, évidemment, de caractériser les infractions. Forcément, hein, si on n'a rien fait, c'est très difficile de caractériser une infraction. Et pour les conditions de garde à vue, il parle d'un défi logistique lié au nombre important d'arrestations, qui était donc, rappelons-le, tout à fait arbitraire. Et forcément, si on interpelle plusieurs centaines de personnes, le commissariat se retrouve facilement engorgé. Il va même plus loin en jugeant que les accusations portées par la contrôleuse générale excèdent ses compétences, ce sont ses mots, à croire qu'il est à deux doigts de dire qu'il faut enquêter sur cette institution, comme il l'a fait pour la Ligue des droits de l'homme, peut-être même la dissoudre cette institution, qui sait.
Ouais, on voit bien en effet comment ce qui se passe à Lyon a été s'inscrit tout à fait dans une logique générale de politique d'État et qu'on est bien loin d'une justice impartiale. Que aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, hein, que la police, elle est là comme le bras armé de l'État pour maintenir l'ordre social, pour maintenir un ordre social injuste et inégalitaire, et puis pour tenter de criminaliser toute une catégorie de population, y compris, comme tu viens de le décrire, Rémi, en attribuant des faits complètement fictifs aux personnes pour tout simplement faire retenir des charges contre eux et puis tenter de leur faire peser une épée de Damoclès pour ou casser les gens pour empêcher que ceux-ci continuent à participer à la contestation sociale.
Et dans le registre de la répression, je voulais faire deux petites brèves sur des violences policières qu'on aurait pu trouver marrantes si elles n'avaient pas été dramatiques. La première, est-ce que tu te souviens, David, de Geneviève Leguet ?
Comme ça, spontanément, non.
C'était une manifestante qui avait subi un traumatisme crânien et plusieurs fractures après avoir été projetée au sol par un policier et à propos de laquelle Macron avait dit « quand on est fragile ». Qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci, et qui lui avait souhaité une certaine forme de sagesse.
Un peu comme la mamie qui avait eu l'erreur d'ouvrir sa fenêtre au passage d'une manifestation et qui avait été gazée chez elle.
Ouais. Zineb Redouane, et qui a eu, elle, malheureusement, qui en était morte.
Exactement.
Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la justice administrative a estimé qu'une quinquagénaire qui se promenait à Bordeaux en 2018, c'était pendant une manifestation des Gilets jaunes, qui a été atteinte à la nuque par un tir de lanceur de balles de défense, était responsable des faits à 25%, puisqu'elle a commis une imprudence fautive en se trouvant sur place. Donc c'est maintenant officiel, hein, c'est même légal, se trouver en marge d'une manifestation, ben c'est répréhensible d'une blessure grave. Et alors, a priori, elle n'aura pas de poursuite contre elle, mais elle est quand même considérée comme étant fautive pour s'être retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment.
Dans une manifestation à Bordeaux, il me semble.
Exactement, en 2018. Une autre brève donc de violence policière, celle-là qui effectivement aussi aurait pu donner à sourire si elle n'avait pas donné lieu à une blessure, c'est dans la nuit de vendredi à samedi à Caluire et Cuire, près de Lyon, que des policiers se sont rendus chez une femme de 98 ans cette fois-ci, toujours des dames âgées, hein, je ne sais pas ce que la police a contre elles, mais ça semble récurrent. Arrivée sur les lieux, c'est la brigade canine qui observe des traces d'effraction au domicile de cette personne, décide d'enlever la muselière du chien qui les accompagne et le lâche dans l'habitation. Alors vous l'avez deviné, les cambrioleurs ne sont plus là, mais la dame, elle, est toujours là. Alors qu'elle dormait, le chien la mord au niveau de la tête. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Et à la portée plainte, on espère qu'il y aura des suites. On se demande cette fois-ci si Darmanin va là encore oser plaider la fatigue du chien pour justifier cette violence.
Comme tu dis, c'est limite de l'anecdote, mais de l'anecdote malheureusement qui a des conséquences dramatiques, mais qui permettrait de, comme le faisait à une époque l'Observatoire des libertés publiques de Maurice Rasfus, de recenser toutes les violences, toutes les exactions, tout ce qui était appelé communément bavure à une époque, mais aujourd'hui ça devient tellement habituel que le terme de bavure n'est même plus pertinent pour qualifier ça. C'est plus de la bavure, c'est de la pratique quotidienne de la police.
Et d'ailleurs, à ce sujet, puisque tu en parles, il y a un fil Twitter aujourd'hui de Ricardo Pereira, qui est journaliste indépendant, notamment chez Rapport de Force, un média qu'on aime bien ici dans Idée Noire, qui recense plusieurs sources de violences policières. Notamment, il parle de la base de données de Basta Media pour connaître les chiffres des morts du fait de la police entre 1977 et 2020. Je vous livre le chiffre, hein, c'est tout de même 746 morts entre 1977 et 2020 qui sont dus à l'action des forces de l'ordre, dont 78 du fait d'un agent hors de son service tout de même. Il évoque aussi David Dufresne, évidemment, hein, qui, avec ses nombreux fils Twitter, Allo Place Beauvau, avait recensé quasiment toutes les violences perpétrées durant les Gilets jaunes. ainsi que et puis il envoie, il met un lien vers le site des Armonts-Lez qui fait aussi un énorme boulot sur le recensement des violences policières.
Et puis au-delà de ces violences policières quotidiennes, il y a les pics de répression au cours des mobilisations sociales. Et je crois que ces derniers temps, on a atteint des sommets au cours de ce mouvement, mais on a aussi atteint des sommets lors de la mobilisation de Sainte-Soline, sur laquelle on est déjà revenu à plusieurs reprises, mais qui continue à faire parler d'elle.
Oui, on en a pas mal parlé hein, sur ces ondes de Sainte-Soline. Tu nous parlais aussi tout à l'heure de cette belle manif du 1er mai, durant laquelle on sait que Darmanin a déployé des drones pour sécuriser la manifestation, entre guillemets. On vous a parlé aussi le mois dernier de la surveillance biométrique pour les JO de 2024. Mais là, je voulais revenir sur une autre technologie qu'on a évoquée il y a quelques émissions de ça, mais qu'on n'avait pas eu le temps de trop creuser, et qui a été expérimentée justement à Sainte-Soline fin mars. Il s'agit des PMC, ce sont les produits marqueurs codés. En résumé, il s'agit d'une peinture invisible qui contient un codage ADN synthétique qui permet de marquer et donc ensuite d'identifier une personne qui aurait été visée et touchée par ce produit. Ce PMC est tiré par un lanceur Eclipse EMEC EMC 100, normalement utilisé pour faire du paintball. Mais là utilisé pour de la répression et qui tire des balles avec une précision allant normalement jusqu'à 40 mètres. Invisible à l'œil nu, le produit lui persiste plusieurs semaines sur les vêtements et la peau, puisqu'il a aussi un effet transperçant des vêtements pour venir se coller directement sur la peau. En résumé, la police vous voit commettre une infraction, mais ne peut intervenir dans l'immédiat. Elle vous marque donc à l'aide de cette peinture invisible codée et elle pourra venir vous cueillir plus tard. La petite histoire, elle s'est passée durant le rassemblement de Sainte-Soline, donc contre les méga-bassines, le 25 mars dernier. On vous en a pas mal parlé, hein, 3200 personnes du côté des forces de l'ordre, 4000 grenades tirées, plus de 200 manifestants et manifestantes blessés, et tout ça pour protéger un champ. Clément, il est journaliste. Il a couvert cet événement, donc le 25 mars dernier. Et le lendemain, vers 14h, sur le chemin du retour, il se fait arrêter en voiture par la police pour une, je cite, « révélation de substances criminalistiques ». Alors le journaliste n'a aucune idée de ce dont il s'agit, et les forces de l'ordre, vous allez le voir, visiblement, n'en savent pas beaucoup plus. Avec une lampe AUV, on recherche sur lui des traces de ce PMC, donc ce produit marquant codé, et Clément les accompagne jusqu'à la gendarmerie pour effectuer des tests. Là, donc, petit moment de gêne, puisque la police ne maîtrise visiblement pas très bien cette technologie. Est-ce que la substance révélée doit être bleue ou verte sous la lampe UV ? Est-ce que c'est bien de l'ADN de synthèse ou de la salive ou du sang que l'on retrouve sur lui ? Visiblement, il faut faire appel à d'autres collègues et il faut aussi mettre Clément en caleçon pour une raison ou une autre. Mais clairement, tout le monde semble perdu, le journaliste comme les policiers. Et c'est finalement une petite trace de 2 cm sur sa main qui va l'incriminer. Il faut à nouveau faire appel à des experts pour prélever un peu de la matière issue de cette trace. Et il est alors mis en garde à vue pour, attention c'est très long, participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre des personnes ou de la destruction ou dégradation de biens. Un terme donc beaucoup trop long pour un délit tout de même passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. On lui demande ensuite, procédure habituelle, un prélèvement ADN qu'il va refuser. On lui notifie donc une nouvelle infraction à cause de ce refus. Et son avocate arrive vers 20h, donc 6 heures plus tard. Clément lui explique la situation et l'avocate, effarée, lui affirme qu'elle n'a jamais vu quelqu'un finir en garde à vue à cause d'une simple trace de ce type. Et pour cause, c'est bien la première fois en France, semble-t-il, qu'une garde à vue est prononcée pour ce motif. Au bout de 24 heures, évidemment, on lui annonce que sa garde à vue sera prolongée encore de 24 heures, mais elle se terminera par chance 4 heures plus tard, sans lui donner cependant la moindre justification ni explication de pourquoi on l'a gardé, ni de pourquoi il est finalement libéré. L'enquête est toujours en cours contre Clément, il peut donc se faire perquisitionner ou remettre en garde à vue à tout moment, un genre de bille de peinture de Damoclès qui peut priver quiconque de liberté s'il a touché ou même frôlé une personne portant ses traces. On lit les mêmes déboires sur le site Reporter pour le surnommé Anti, qui lui est venu à Sainte-Soline en tant que manifestant. Les gendarmes lui ont paru tâtonnants, dit-il. Le premier à qui j'ai eu affaire ne semblait pas connaître la technique. Il prenait des instructions par téléphone, se rappelle-t-il. Et un gendarme mobile qui nous surveillait nous a dit « Vous allez voir, c'est leur nouveau joujou, ils vont pas vous lâcher ». À la fin de sa garde à vue, Antti en a appris un peu plus. Il n'a qu'une petite tache entre le pouce et l'index et n'aurait pas été marqué par contact direct avec le produit, mais par transfert. Parce qu'en effet, le produit met 5 minutes à sécher et il est donc possible de récupérer cette trace par une autre personne ou un objet. L'officier de police judiciaire a dit que le produit met un temps de séchage de 5 minutes, témoigne Antti, et donc que j'aurais été en contact avec quelqu'un ou quelque chose dans ce laps de temps. Chloé Chalot, l'avocate du journaliste Clément, regrette que deux personnes aient été privées de liberté pendant 24 heures simplement parce qu'on a mis une lumière sur elles et qu'elles ont une légère trace sur la main. Faut bien avouer que c'est absurde. Quant à la précision de ces lanceurs, on est en droit de se poser des questions puisqu'on le sait, des tirs ont été effectués depuis l'arrière d'un quad qui roule dans un champ. Est-ce qu'on est bien sûr donc que les personnes visées ont vraiment été celles qui ont été touchées? Et puis reporter pose la question de comment se fait-il que seulement deux personnes aient été interpellées avec des traces aussi petites alors que le produit peut traverser les vêtements et que beaucoup de manifestants auraient pu être marqués. La dernière question, elle est juridique. On n'a aucune connaissance du cadre légal d'usage de cette arme, déplore Chloé Chalot, l'avocate. On n'a pas trouvé d'arrêté ni de règlement indiquant comment elle peut être utilisée. Rappelons pour finir que cette technologie ne permet de prouver que votre présence sur les lieux et non la participation à un délit. Et de la reprocher la présence d'un journaliste dans une manifestation, il y a un monde, ou plutôt une dystopie d'écart.
Voilà, comme quoi les conséquences et les expérimentations de la violence policière à Sainte-Soline risquent d'avoir des conséquences sur nos luttes à venir, parce qu'à ne pas douter que le degré de violence qui a été atteint lors de cette mobilisation, on le rappelle, contre le projet d'installation d'une ce qu'on appelle les méga-bassines, c'est-à-dire d'une retenue d'eau géante pour l'agriculture productiviste, risque de... on le voit, hein, c'est une expérimentation policière, il tâtonne. Ça paraît ubuesque, ça paraît digne de 1984 de George Orwell, mais malheureusement ça risque peut-être de se généraliser, comme tu le dis si bien, être, ou en tout cas comme tu rapportes si bien les paroles d'un garde mobile, d'être le nouveau joujou de la police, ouais. pour pouvoir rafler un peu plus largement ceux et celles qui participent à la contestation sociale.
Il faudrait pour ça qu'ils apprennent à s'en servir. On espère d'ailleurs qu'ils apprendront jamais à bien s'en servir, parce qu'ils n'ont pas l'air au point.
Voilà. Allez, on vous tiendra au courant. En attendant, on va faire une seconde pause musicale dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On va retrouver les Tagada Jones qui nous chantent très à propos face à tout ça, face à cette violence policière et violence d'État, qu'on a la rage.
Plutôt que les idées, les actes, les mots. Oui messieurs, si nos mots restent pied. Ne craignez-vous pas qu'on finisse par tout casser. À toujours vouloir nous écraser. À toujours vouloir nous humilier. Encercler le mouvement, contrôler méthodiquement. Peindre la cage de notre rage. Briser nos rêves et revendications. Étouffer nos actes et mobilisation. Vous attisez la haine, l'envie de faire front. Jusqu'où doit-on aller, je vous prends l'engagement. La haine, la rage dans les yeux, nous avons la haine.
Et Tagada Jones qui nous chantait « Nous avons la rage » tout à fait à propos face à cette démolition sociale en cours et cette répression policière. Vous êtes toujours sur le 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h à l'écoute d'Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et on va poursuivre, on parlait de la répression policière, on parlait de la violence d'État. Et ben dans cette société toujours plus aseptisée encadré et où on tente de maintenir l'ordre social inégalitaire, on se rend compte comment aussi la législation, elle agit bien sûr toujours au profit des riches et des puissants et du côté de la propriété et rend de plus en plus difficile tous les espaces de liberté. C'est ce qui se passe avec la nouvelle loi anti-squat qui va se mettre en place et qui va frapper un peu plus durement tous ceux qui tentent de trouver un toit pour se loger ou tentent de trouver des logements vides pour y développer d'autres formes de sociabilité que celles qui sont régies par la loi du marché.
Oui, comme tu l'as dit, hein, la violence d'État, elle peut prendre plusieurs formes. Et cette fois-ci, comme pour les violences policières, la France se fait épingler par l'ONU. Là, c'est sur la question des logements. Puisque fin mars, une proposition de loi a été portée par les députés Renaissance Guillaume Kasbarian et Aurore Berger. C'est la loi dite anti-squat qui vise à, entre guillemets, protéger les logements contre l'occupation illicite. Notons au passage qu'en 2021, avec les procédures d'expulsion déjà existantes, ce sont 170 propriétaires de logements squattés qui ont pu récupérer leur logement, bravo à eux, alors que la Fondation Abbé Pierre, dans le même temps, estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile fixe en France en février de cette année, dont 30 000 SDF supplémentaires en un an. Alors même que Macron avait promis durant son premier quinquennat que plus personne ne dormirait dehors. Une belle réussite. Dans un article du 4 avril dernier, Libération détaillait cette nouvelle loi. La mesure prévoit une myriade de criminalisation, celle d'occuper un logement sans titre, c'est-à-dire de squatter des bâtiments vides ou désaffectés, exposerait à 2 ans de prison et 30 000 euros de sanctions pécuniaires, ou encore celle du squat d'un domicile, sanctionné par 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il s'agit donc là de tripler les sanctions déjà en vigueur actuellement. Quant aux locataires qui ne quitteraient pas leur logement sous 2 mois à l'issue d'une procédure d'expulsion, risqueraient eux 7500 euros d'amende, donc toujours plus de répression. Mais cette loi dont on sent toute l'humanité, dont notre gouvernement sait faire preuve envers les plus précaires, inquiète aussi les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur le logement convenable, l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, qui ont publié un communiqué le 4 avril dernier, jour du vote de cette loi à l'Assemblée nationale. Parce qu'en effet, petit point histoire, la France n'est pas censée pouvoir faire ce qu'elle prévoit de faire. Le 4 novembre 1980, la France a ratifié le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Ce pacte, ratifié par 171 États, oblige le pays à, je cite, « donner la propriété voulue aux groupes sociaux vivant dans des conditions défavorables, leur accordant une attention particulière. Les politiques et la législation ne devraient pas, en l'occurrence, être conçues de façon à bénéficier aux groupes sociaux favorisés au détriment des autres couches sociales. » Ça, ce sont les mots des deux rapporteurs spéciaux de l'ONU, Balakrishnan Rajagopal, et Olivier Deschutter, qui en sont venus à craindre une criminalisation de certaines personnes en situation de précarité et une accélération des procédures d'expulsion sans alternative. Ainsi qu'une réduction des garanties et de procédures visant à protéger les occupants d'un logement. En résumé, si notre pays des droits de l'homme se range du côté des plus favorisés au détriment des plus précaires, il va à l'encontre des engagements internationaux qu'il a lui-même signés il y a plus de 40 ans. Et cette loi, sans grande surprise, a bien été validée par 385 voix contre 147 et 8 abstentions à l'Assemblée nationale le mardi 4 avril dernier. Donc, à noter tout de même qu'à Paris, quelques 350 personnes ont manifesté le mois dernier contre le retour de ces expulsions et la proposition de loi qui va contribuer à la chasse aux pauvres orchestrée par Emmanuel Macron, d'après Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. Quant à l'article de Libé, il se termine sur une note d'espoir en demi-teinte. Si tout porte à croire que les députés voteront la proposition de loi à l'aide des Républicains et du RN, ce qui s'est effectivement produit, hein, et comme le dit si bien Darmanin, c'est toujours les mêmes, si l'Assemblée vote donc ce texte, ce qui a été fait, les sénateurs pourraient s'emparer à temps de la question soulevée par les rapporteurs et peut-être faire annuler cette loi. Alors, on n'en attend pas grand-chose, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ces institutions-là, mais on ne peut espérer qu'il et elle le fassent, histoire de faciliter... de rendre plus difficiles les procédures d'exclusion de squats. Et dans le cas contraire, on ira en ouvrir de nouveau nous-mêmes. Hein.
Exactement. Le camarade pied de biche sera là pour aider et pour servir à rétablir un peu de justice sociale dans cette société qui produit chaque jour un peu plus d'inégalités. Et on voit très bien comment les inégalités ne cessent de se creuser dans une société de plus en plus riche. On va terminer cette émission Idées Noires avec... Un petit point international, deux petites informations à résonance internationale. Tout d'abord, une information en effet qui fait toujours plaisir parce que l'impérialisme français s'est pris une gifle ce week-end en Polynésie. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Tavani Wira Atira, qui est un parti haïtien indépendantiste, est arrivé en tête du second tour des élections régionales qui ont eu lieu en Polynésie ce week-end, ce 30 avril dernier, et que la victoire donc du Tivani est quelque chose d'important et qui met en reflet beaucoup de choses. C'est une victoire qui d'une part trouve ses racines dans les luttes contre la colonisation française, contre l'exploitation des ressources locales et puis aussi contre les essais nucléaires qui sont pratiqués sans vergogne par la France dans cette région du monde. Mais derrière tout ça, c'est aussi un sursaut populaire. Malgré le clientélisme électoral, ça reste un sursaut populaire contre là-bas aussi les inégalités sociales qui sont vertigineuses dans un pays où l'impôt est inexistant. Et c'est aussi une victoire contre la destruction des racines culturelles qui sont menées notamment par les missionnaires catholiques et protestants, contre la destruction qui se poursuit à travers l'asservissement d'une population, notamment de la jeunesse et des populations précaires qui sont détruites à coups de ice. Alors c'est quoi le ice? C'est une fameuse drogue de synthèse bon marché qui ravage très concrètement les quartiers populaires des villes de Fa et de Papété, comme aussi les populations des petites îles de l'archipel. Et que le parti Tivani allait à l'encontre de tout ça, que soumettre à l'impôt les fortunes pour fonder par exemple une protection sociale minimum, repousser l'invasion des riches français, chinois ou autres capitalistes qui s'apparent les terres, reconstruire une production alimentaire locale désirable, gérer un tourisme soutenable, réguler un système scolaire aux mains des églises, sont les premiers défis à soutenir que se propose de mener ce parti indépendantiste. Et même si aucun drapeau ne nous fait rêver, aucun hymne national, aucune revendication nationale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand les revendications nationales peuvent s'accompagner d'émancipation sociale, et c'est bien ce qui semblerait être le cas. Et donc, en même temps que mettre une gifle à l'impérialisme français, en tant que militant communiste libertaire, on peut qu'apporter en tout cas notre solidarité au peuple polynésien dans ce moment d'espérance, et soutenir d'une part, comme tous les peuples, son libre droit à disposer de lui-même, à son indépendance, il décide. Et si d'autant plus cette indépendance nationale peut s'accompagner d'une indépendance sociale et politique et d'une émancipation, eh ben c'est tant mieux et on peut que féliciter cette dynamique qui s'est exprimée ce week-end du côté de la Polynésie française. Voilà, ça c'était la première information internationale. Et puis la deuxième, on a commencé cette émission en parlant du 1er mai. On voulait la terminer en vous lisant un extrait du communiqué Europe des organisations du réseau Anarchismo. Le réseau Anarchismo, c'est un réseau qui regroupe une petite dizaine d'organisations anarchistes et communistes libertaires à l'échelle européenne, dont fait partie l'Union communiste libertaire, et qui a publié un communiqué commun à l'occasion du 1er mai. Et on voulait terminer cette émission en vous faisant part de la teneur de ce 1er mai qui a été diffusé donc en français, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol et en grec à l'occasion de ce 1er mai 2023. Chaque 1er mai, nous commémorons la grève de Chicago de 1886 qui a culminé avec les émeutes dites de Haymarket. La grève s'est terminée par des milliers de licenciements et de nombreux blessés. La grande majorité d'entre eux étaient des immigrants venus d'Europe. Cette mobilisation de masse a été très durement combattue par les autorités qui ont ensuite exécuté les 5 martyrs de Chicago, des syndicalistes et des militants anarchistes. Chicago a été le point de départ d'un mouvement mondial pour l'obtention de la journée de travail de 8 heures qui a duré des décennies. La classe ouvrière a atteint cet objectif grâce à la lutte et non grâce aux décisions des parlements. La plupart de nos droits sont gagnés grâce à l'offensive des forces populaires. C'est lorsque la lutte s'arrête que le rapport de force change et que la classe dirigeante commence à réduire les droits. Pendant des décennies, la classe dirigeante européenne, qui fait partie du noyau impérialiste, a pu garantir des niveaux de vie de base à sa classe ouvrière grâce à l'exploitation coloniale et impérialiste du sud de la planète, dans le but de saper la résistance dans son propre pays. Bien que cette exploitation et cette oppression continuent d'exister, nous pouvons constater que même ces niveaux de vie sont de plus en plus menacés. Nous devons travailler de plus en plus pour obtenir le même salaire, voir notre niveau de vie diminuer à cause de l'inflation, ou voir nos pensions réduites ou l'âge de la retraite augmenter. Depuis quelques années, nous vivons un processus de dépossession des travailleurs et des travailleuses qui s'accélère en raison des différentes crises qui se répercutent les unes sur les autres. Nous avons une crise de production post-pandémique, une crise énergétique, une crise du logement, une crise de la raréfaction des ressources et une crise climatique. Toutes marqueront un temps de changement vers un autre type de société et toutes nous amène à de nouveaux conflits qui peuvent se développer dans le domaine géopolitique. En ce sens, nous ne voulons pas oublier la terrible guerre en Ukraine, où les grandes puissances mondiales s'affrontent depuis maintenant plus d'un an, provoquant la mort et la dévastation en masse. Les peuples ne peuvent pas s'attendre à des améliorations substantielles de leur vie par le biais de la lutte parlementaire. Au contraire, en période de pénurie, les monstres autoritaires se développent. L'idéologie de droite prétend utiliser la diversité des travailleurs et travailleuses pour désigner des groupes à haïr, les immigrés, la communauté LGBTI, les Roms et les Manouches, voire les féministes et les écologistes. Nous ne pouvons manquer de rappeler que les communistes libertaires seront toujours aux côtés des personnes et des groupes sociaux opprimés et que nous croyons que l'autodéfense collective comme l'auto-organisation est un moyen de construire un monde meilleur qui passe nécessairement par la diversité, la solidarité entre les peuples et la construction d'une société sociale et libertaire. L'anarchisme s'efforcera en permanence de promouvoir l'émancipation des masses par l'action directe et les luttes sociales diverses mais fédérées et cohérentes, construisant ainsi le rapport de force qui permettra les changements radicaux dont nous avons besoin. Nous, Organisation communiste libertaire européenne, signataire de ce communiqué, souhaitons à toute la classe ouvrière d'Europe et du monde un joyeux et militant 1er mai pour la construction du pouvoir populaire. Vive l'anarchie, vive le communisme libertaire, vive le 1er mai. Voilà le communiqué qui a donc été publié, on vous le dit, à travers toute l'Europe par une dizaine d'organisations communistes libertaires et anarchistes dont l'Union communiste libertaire fait partie. Et c'est sur ces belles paroles qu'on avait envie de terminer cette émission Idées Noires. Idées Noires, rendez-vous mercredi prochain, comme toutes les semaines, 20h-21h sur 62.2 de Radio Canu, pour une nouvelle heure d'actualité menée par l'Union communiste libertaire. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après notre générique pour la bande-son de nos révoltes.
Bonne soirée.